mais ça marche pas. Ça marche le truc? Est-ce que ça a marché là? Bonjour. Comment ça va en 2019? Bien. Ici, à Abidjan, en l'an 2069, pour tout vous dire, ça va pas très fort. C'est encore moi, Vladimir Cagnolari, qui vous parle. Après une tempête, LA tempête géomagnétique. La plus forte depuis 1859, quand une éruption solaire avait déjà semé la zizanie sur Terre en perturbant le champ magnétique de la planète. Mais à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'avions, encore moins de fusées, l'électricité était rare et à part quelques postes télégraphiques qui avaient pris feu, bon, il faut bien le dire, il y avait eu plus de peur que de mal. Mais imaginez-vous un peu en 2069, pour vous dans 50 ans, là où je me trouve maintenant à Abidjan. Et oui, parce qu'ici, tout fonctionne désormais avec les satellites, les ondes et même nos fameuses oreillettes Green 2. Ah non, non, bon, là, pas maintenant, non. Voilà plus d'une semaine, figurez-vous, qu'on n'a plus de courant, plus d'ultranet, plus de moyens de communiquer. Les transports sont à l'arrêt, les banques, les entreprises, la ville tout entière. Et oui, sans technologie, sans les gadgets qui se sont rendus indispensables, eh bien, on est déboussolé. Alors du coup, bah, on parle avec nos voisins pour se rassurer. Et d'ailleurs, hier, j'ai tenté une sortie avec mon voisin de palier pour faire une petite reconnaissance du quartier.
Il y a un petit côté quand même... comme si tout, oui, c'est comme si tout flippant, comme si tout le monde avait déserté après une catastrophe.
Oui. Post-apocalyptique.
Ouais, on rigolait, mais en réalité, on n'était pas très rassurés.
Donc tous les humains sont partis, quoi.
Oui.
Bon allez, faut que je vous dise la vérité, ce que vous venez d'entendre ne date pas d'aujourd'hui. J'étais bien à Abidjan, mais en 2019, au plateau qui à l'époque était encore le quartier des affaires de la mégapole ivoirienne. Et la nuit, le plateau se vide. On rencontre peu d'hommes, encore moins de piétons, et on est seul au pied des gratte-ciels qui vous regardent de haut et semblent vous dire « Eh, petit, qu'est-ce qu'il y a ?» Si je me retrouvais là, c'était pour faire une ronde dans le quartier du plateau avec l'architecte Issa Diabaté. Pourquoi ? Bah, pour parler d'architecture, mais aussi d'urbanisme et des villes africaines d'hier et de demain. Normal, à l'époque, en 2019, je menais mon enquête sur les afrofuturistes.
Au Burkina Faso, on a 70% de la population à moins de 30 ans. Et quand tu réfléchis, tu regardes qu'on n'a qu'une seule porte de sortie. C'est d'oser inventer l'avenir.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler non plus de musique, de romans, de science-fiction, mais bien de tous ceux qui, très concrètement, inventent au quotidien le futur de l'Afrique. Et comme pour réaliser de grandes choses, eh bien, il faut commencer par les rêver, j'ai repensé à Nkrumah, Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana indépendant. Je vous l'avais dit, pour moi, c'était déjà un afro-futuriste.
We have done the battle, and we again rededicate ourselves. Not only in the struggle to emancipate other territories in Africa, our independence is meaningless unless it is linked up with the total liberation of the African continent.
Kwame Nkrumah, on le sait, voulait à tout prix faire de l'unité africaine une réalité. Il avait rêvé des États-Unis d'Afrique. Juste à côté de son pays, le Ghana, il y avait la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, qui lui n'était pas d'accord, hein. Houphouët, lui, voulait faire les États-Unis d'Afrique dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, Houphouët pouvait bien être un brin mégalo, mais il voyait grand. Il rêvait son pays, sa mégapole, Abidjan, et même son village Yamoussoukro en Futurama. Et c'est bien pour ça que j'ai demandé à Issa Diabaté, architecte à Abidjan, de me guider dans les rues du plateau pour retrouver les rêves d'Houphouët. Ces rêves qui ont fait ressembler le cœur de la ville à Manhattan, mais surtout qui l'ont fait ressembler à Abidjan. Et pour mieux sauter, prenons notre élan en remontant dans le passé. Issa Diabaté.
Alors là, on est dans le bas du plateau. Ce qu'il faut savoir déjà sur Abidjan, c'est que ce qui a suscité le déplacement de la capitale sur Abidjan, c'est déjà les épidémies de fièvre jaune de Grand Bassam.
Qui était sur la côte. Hein.
Qui était sur la côte. Et donc, le site d'Abidjan a été choisi justement pour non seulement son découpage lagunaire, mais son plateau. Et ce qui est intéressant de noter sur le plateau, c'est que le bas du plateau dans lequel on est le début, en fait, de la ville blanche, donc la ville coloniale, qui vivait au plateau et qui s'est installé au plateau de façon à pouvoir surplomber en fait toutes les attaques qui pourraient venir de la côte. Donc il y a ce bras lagunaire qui coupe la ville en deux. En fait, on a 13 villes d'un côté et le plateau de l'autre, avec les deux ponts qui la relient. Et pendant très très longtemps, en fait, les deux parties de la ville ont été reliées que par deux ponts. D'abord par un pont, un premier pont qui était un pont flottant à la place du pont Fouet-Boigny.
Un pont flottant, qu'est-ce que c'est ?
C'est un pont qui flotte en fait sur la lagune, qui permet aux voitures de passer, mais qui permet également à une certaine heure de lever le pont. Ce qui fait que la ville noire, Trècheville, était coupée de la ville blanche. Et toute personne qui était trouvée dans la ville blanche passait la nuit au poste. Donc déjà, ça explique bien la configuration de la ville d'Abidjan, comme pas mal de villes coloniales sont basées justement sur les aspects de sécurité. Si vous prenez le nord du plateau, par exemple, vous avez le camp d'Agban, qui est un camp militaire. Donc toutes les attaques qui pouvaient venir du nord d'Abidjan étaient stoppées net par le camp militaire. Et donc le plateau, la ville blanche, s'est allée sur cette langue en fait, qui avance vers la lagune. Donc ça, c'est important de savoir pour comprendre là où on est. Après, là où on est, en fait, c'est l'une des premières parties du plateau qui est la partie commerçante, donc la rue du commerce qui est juste à côté, qui justifie sa position par rapport à la proximité du port. Donc toutes les marchandises transitaient par la rue du commerce. D'ailleurs, on voit dans l'architecture, on va passer devant. En fait, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a quasiment plus, mais on voit encore la structure de l'architecture coloniale avec les entrepôts. Et malheureusement, aujourd'hui, ce foncier est extrêmement valorisé, donc ça ne peut plus rester des entrepôts. Donc on va peut-être avancer.
Hein. Allez, je vous suis. Attention à ne pas se faire écraser.
S'exercer son œil, on peut voir les différentes époques en fait, dans l'architecture du plateau. Et on peut essayer de se projeter, par exemple, à l'époque coloniale, on avait des échelles plutôt comme celle-là, avec un commerce en bas, toujours, grande hauteur pour les entrepôts, etc. Et puis le logement en haut. Malheureusement, il y en a de moins en moins parce qu'ils disparaissent à vue d'œil. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui reste le charme d'une ville comme Abidjan, c'est de pouvoir lire les différentes époques de façon complètement mélangée et parfois. Presque homogène en fait.
Dans l'hétérogénéité ?
Oui, voilà. Il y a un certain nombre d'architectes qui ont fait pas mal d'expérimentations donc d'architecture déjà à l'époque bioclimatique, donc depuis le milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80.
Ce qu'on appelle architecture bioclimatique ?
Alors c'est une architecture qui en fait répond au climat. C'est-à-dire qu'on est dans un climat chaud, surtout dans le sud. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans un bâtiment ? C'est de la ventilation. Donc notamment de la ventilation traversante pour faire passer l'air d'un côté à l'autre. Et du coup créer une forme de confort thermique. Mais avec l'avènement des années 80, les visions ont changé. Dans les années 80, on a commencé à penser que la clim allait tout résoudre, que la voiture allait résoudre tous les problèmes de mobilité, qu'il fallait juste investir dans la technologie pour pouvoir avancer. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est une vision qui a ses limites. Donc, même en architecture aujourd'hui, on parle de plus en plus d'architecture bioclimatique. C'est complètement à la mode. Mais très souvent, on oublie que c'est des choses qui ont été expérimentées il y a 50 ans.
C'est-à-dire que le futurisme, c'est souvent le rétro-futurisme.
C'est le rétro-futurisme, oui, complètement.
De crocodile à crocodile, je te le redis. Ici, il n'y a que des gens bien sous tous les rapports. Il y a de belles rues goudronnées, de belles maisons, des hommes sympathiques, des jolies femmes, des enfants malins et sages à la fois.
Ça, c'est un bâtiment aussi. Très intéressant, qui est un bâtiment d'un architecte qui s'appelle Henri Chaumette, qui a beaucoup construit à Abidjan et dans d'autres capitales comme Cotonou, comme Addis Abeba, et dont la spécialité en fait c'était, enfin toute sa réflexion était basée sur qu'est-ce que l'architecture moderne en milieu tropical. Alors par exemple, là en face, on a l'immeuble Alpha 2000. Je ne sais pas si vous connaissez cet immeuble assez marron, une tour aussi avec la librairie de France en bas, une espèce d'arcade un peu à la sahélienne aussi. Donc c'est des architectures, même si elles sont des tours et qui ont des aspects quand même assez modernes.
Et massives.
Et massives, oui. Répondent quand même à une vision de ce que c'est que la tour en milieu tropical.
Il y avait ces préoccupations bioclimatiques, oui. Comme vous disiez tout à l'heure, mais il y avait aussi, j'ai l'impression, l'idée, malgré tout, au moins par morceau, de s'inspirer des cultures ou des esthétiques africaines tout en faisant des immeubles très modernes.
Absolument, parce que ça c'est un petit peu ce qu'on a perdu. Mais en réalité, l'intérêt, c'est quoi? C'est-à-dire que si on pratique en Afrique, on doit avoir une esthétique qui parle de là où on vit et justement, par ce biais, intéresser les autres. Si on doit tout simplement répliquer ce que les autres ont fait, ça n'a aucun intérêt.
C'était quoi, en fait, l'idée de d'Oufoué Boigny dans les années 60 quand il a commencé à lancer tous ses grands travaux et toutes ses tours? Ça va durer jusqu'à la fin des années 80.
Je pense que la différence, par exemple, entre Abidjan et Dakar, c'est les visions des deux présidents. Je pense que Oufoué Boigny, au sortir de la colonisation, pour lui, c'était maintenant important d'avoir les mains libres et d'expérimenter. Et donc de faire des choses qui se faisaient donc sans complexe. Donc des tours alors qu'on n'avait pas besoin, des choses assez monumentales. Donc c'était ça, sa vision. Et c'est ça qui, je pense, donne encore à Abidjan son peps et sa dynamique. Tandis qu'à Dakar, on était plutôt dans la culture, dans la conservation, dans le patrimoine. Donc on voit des choses à Dakar qu'on ne voit plus à Abidjan. Et c'est intéressant que ces deux capitales, en plus, qui sont, même si elles sont distantes physiquement, sont quand même relativement proches, continuent d'entretenir leurs différences. Voilà, là par exemple, on voit le Haut-Rhin de Labatt, le dessin de Nervi, qui ressemble en fait à une espèce de baobab en béton.
C'est vrai, il a cette forme-là. Et en même temps, bon, si on regarde ça avec d'autres yeux, ça peut aussi être le bas d'une soucoupe qui s'envole.
C'est complètement ça, oui.
Un peu comme dans la guerre des étoiles.
C'est complètement ça. Mais parce que je trouve qu'à l'époque, justement dans les années 60-70, on avait la modernité, le futur. C'était également ces formes complètement démentes. On va voir tout de suite là avec la pyramide. Voilà, un bel exemple de comment elle a pu se lâcher dans les années 70. En imaginant que le futur, c'était ça. Et là, on arrive sur l'icône du plateau, la mascotte du plateau, je ne sais pas, la pyramide. Et donc, il y a ce bâtiment d'architecture brutaliste, en forme de pyramide stylisée, avec quand même pour l'époque un dessin très très audacieux. Il date des années de 73. C'était un bâtiment qui a été fait par un jeune architecte italien, dont je ne me souviens plus du nom exactement, mais qui a vraiment cette forme complètement démente, avec des détails assez exceptionnels. Toute cette couverture en lame d'aluminium pour protéger justement les fenêtres. Alors malheureusement, son tort, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisamment rentable pour s'auto-entretenir. Ce qui fait qu'il est fermé, complètement à l'abandon. Mais c'est vraiment un super, super bâtiment. Alors, il y avait des rumeurs qui disaient qu'on allait le détruire, mais bon, ça, il faut plutôt le sauver. C'est un élément de patrimoine vraiment exceptionnel.
Mais en fait, quand Oufoué Boigny a décidé de faire autant de tours au plateau, donc il y avait ce côté nouvelle ère, expérimentation, mais il ne s'est pas calqué. Alors que pourtant il y a beaucoup de liens entre la France et la Côte d'Ivoire, comme entre la France et les anciennes colonies.
Ouais.
Il ne s'est pas calqué sur une architecture qui ressemblerait à des choses parisiennes. Il a vu plus les États-Unis.
C'est ça. Il a vu plus pour lui ce que représentait la modernité. Paris, bâtiment haussmannien, c'est l'époque. Ça représente une certaine époque. Nouveau pays, nouvelle ère, nouvelle vision. On va chercher ce qui se fait de mieux. Donc si c'est des tours, ce sera des tours. C'est ça la vision en fait du football. Il fallait créer quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Par son endroit, par son mélange, par son audace.
Ouais. C'est assez étonnant parce qu'il y a la pyramide complètement à l'abandon. On voit encore à travers ses fenêtres des stocks qui sont restés là, entreposés. Ouais. Et puis juste à côté, il y a l'Institut français où il y a un concert d'électro.
Oui, tout à fait.
Vous ne me croirez peut-être pas, mais celui qui jouait ce soir-là à l'Institut français, au pied de la pyramide, eh ben c'était Ibaku, dont je vous parlais tantôt. Vous vous rappelez, le fils d'une alien et d'un être humain. Vous, Lisa, par exemple, à qui inventer des bâtiments aujourd'hui, ça serait quoi votre envie, votre désir, votre rêve d'Abidjan dans 50 ans?
Oh, ce serait qu'Abidjan soit une ville complètement verte, une ville où on recommence à marcher, ou une ville où on retrouve en fait une certaine échelle humaine, quelque chose qu'Abidjan a eu il y a 40 ans. Ça, c'est véritablement vrai. Et je pense que c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Il suffit d'être inventif, en fait, dans comment on procède. Aujourd'hui, on voit qu'Abidjan est... Le problème d'Abidjan, en fait, tous ces problèmes de mobilité, c'est parce qu'Abidjan est trop centralisé. Il y a encore de gros pôles qui centralisent tout, alors qu'on a besoin un petit peu d'atomiser tout ça et de faire des successions de mini-villes les unes à côté des autres pour pouvoir retrouver un peu cette échelle humaine, le fait de gérer un quartier avec la proximité, en fait, comme dans les villages, quoi.
Il y a plein de villages.
Exactement. Et en réalité, de la même façon qu'on doit s'appuyer sur des techniques d'architecture ancestrale, en fait, qui ne sont juste que la sédimentation de différentes époques, on doit faire de même aussi pour la construction d'un modèle social. Quand on voit en général qu'est-ce qui fait que les villages, en fait, fonctionnent, c'est que l'élément central n'est jamais loin. Le chef est toujours présent sous une forme ou sous une autre. Donc il y a une forme de distance qui reste à échelle humaine. Dès qu'on arrive en ville, le lien avec ce type d'autorité devient complètement immatériel.
Vous, votre vision du futur, elle n'est pas justement dans le ciel, dans construire en montant de plus en plus haut.
Alors, on est obligé de monter de plus en plus haut, ne serait-ce que pour des phénomènes de densification.
Il n'y a pas de place.
Voilà. Pas de place, ou même, je pense qu'on peut utiliser la place différemment. Quand on est effectivement dans un habitat qui est plutôt collectif, on va libérer pas mal de place, en fait, ce qui permet à tout le monde, justement, d'avoir des jardins suffisamment grands pour pouvoir les partager 2000, 3000 mètres carrés. Tandis que quand on est encore dans une vision où on découpe, on segmente, c'est vrai, on a chacun son jardin pour soi.
Mais il est tout petit.
Et je pense que les logiques d'habitat en ville doivent effectivement obéir à ce type de vision.
Donc pouvoir concentrer l'habitat, mais lui permettre de jouir de grands espaces.
Absolument, oui. Parce que ça permet également de végétaliser, donc de baisser les températures, de se permettre d'imaginer autre chose que se déplacer en voiture, et du coup imaginer des modes de vie complètement différents. Et je vois que c'est des choses qui commencent à émerger.
Plus on monte vers le sommet du plateau, plus les voitures se font rares, et les hommes aussi. On est au cœur de la nuit, dans le silence, et on a vraiment l'impression que les hommes ont déserté les lieux.
Il y a un petit côté quand même... comme si tout, oui, c'est comme si tout flippant, comme si tout le monde avait déserté après une catastrophe.
Oui, post-apocalyptique.
Donc tous les humains sont partis, quoi.
Oui. Le jardin, il continue jusqu'ici. Alors aujourd'hui, c'est un jardin qui sert aux gens qui travaillent pas loin, qui peuvent louer des hamacs et faire la sieste entre midi et deux.
Mais il faut louer un Mac même pour ça.
Oui, tout à fait.
Rien ne se perd.
Rien ne se perd, tout se...
Monnaie.
Exactement. Une vieille termitière en plein centre.
Une termitière au milieu des buildings, le traditionnel et le moderne, le passé et le futur qui coexistent dans le présent. Franchement, on n'est pas loin de l'univers afro-futuriste et on est en tout cas dans ce mélange des genres et des temps qui fait le charme de ce bout d'Abidjan. En tout cas, depuis que les urbains d'Afrique sont devenus aussi nombreux que les ruraux, eh bien la question de l'aménagement des villes est devenue cruciale. En fait, on va dire ça fait déjà bien longtemps qu'elle l'est. En tout cas, pour les pouvoirs publics, ce qui était à la mode en 2019 comme solution, c'était les smart cities, les villes intelligentes. Oui, après le smartphone, la smart city, connectée pour les services publics, privilégiant la technologie pour simplifier la vie des habitants en essayant d'avoir un impact minimum sur l'environnement. Or, en 2019, il pleuvait des projets de smart cité créés ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Le Ghana avait sa Hope City, la cité de l'espoir, le Nigeria Eco Atlantic City, le Rwanda Vision City, le Togo Wellbeing City, etc., etc. Tout ça en Angola, comme si français ça pouvait pas être moderne aussi. Bon, en tout cas, tout ça était des grands projets qui en 2019 étaient pour beaucoup au stade de jolies maquettes. Sur cette question, j'ai eu envie de demander son avis à Sename Kofi Agbodjinou, un jeune architecte togolais féru de technologie dont Senatou Saka m'avait soufflé le nom. Sename avait longuement étudié les formes traditionnelles d'architecture. Il avait repéré la cohérence des formes, de l'objet du quotidien à la maison, de la maison jusqu'au village, oui, les formes et leur esprit se répétaient comme si ce qui les avait bâtis suivait ce que Sénamé appelle un algorithme vernaculaire. Un peu comme si tous ces bâtiments africains avaient été codés par les valeurs fondamentales qu'on retrouvait à la fois dans la pensée mais aussi dans les musiques africaines. Et sur les smart cities, Sénamé ne s'en laissait pas compter. Allô, bonjour.
Bonjour Vladimir.
Il y a plusieurs pays d'Afrique ces derniers temps qui ont lancé des projets de smart cities. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une smart city, si vous voulez bien nous éclairer là-dessus, et quel regard vous vous portez sur ces différents projets de villes du futur ?
La smart city, il faut faire très simple et donc forcément un peu gauche. C'est un modèle urbain dans lequel c'est la technologie principalement qui fait la ville. Et c'est donc la technologie qui construit la ville. C'est donc en quelque sorte un retour en grâce de la technologie, puisque dans le modèle précédent, qui était la ville durable, on assimilait un peu la technologie à de l'individualisme, à de la pollution, à de la cherté. Et la ville durable s'était construite sur des systèmes très anti-technologiques, technophobes même. Donc depuis quelque temps, la technologie devient la chose qui fait la ville. Et cela pose un certain nombre de problèmes. Il y a un problème, entre guillemets, philosophique presque, qui est que les technologies se renouvelant incessamment et étant même en ce moment dans une sorte d'exponentielle dans leur transformation, on peut se dire que la smart city est un horizon qui va toujours se défiler et à peine on aura livré un projet de smart city, que les technologies qui ont servi à l'affaire seront déjà désuètes et que la ville elle-même serait caduque. Vu que l'objectif de la smart city ne peut jamais être atteint, parce que la technologie change en permanence, la technologie est donc une sorte d'extraordinaire programme d'obsolescence programmée, et donc une sorte de réalité en vie qui permet de produire et de vendre de la technologie en permanence. Et cela s'explique de façon très simple par le fait que la smart city, en fait, a été conceptualisée par des gens qui veulent vendre de la technologie, et est promu par des gens qui veulent vendre de la technologie. Alors, le deuxième aspect de la critique que je fais de la smart city, c'est que les innovations ont toujours eu pour objectif d'augmenter l'homme. Et la première innovation, en ce sens-là, a été le groupe, les structures sociales. Les gens se sont mis en groupe pour pouvoir être augmentés. La tendance est d'augmenter l'homme avec de la technologie. Mais la technologie ne prend pas pour modèle les structures sociales et va plutôt dans une direction où elle veut se substituer au social. Et la technologie va devenir sociale, en quelque sorte, demain. Et cela pose un certain nombre de problèmes par rapport à des contextes comme les nôtres, où les structures sociales sont encore très fortes. Et il va falloir se demander, est-ce qu'on peut basculer dans de la smart city en gardant la complexité de nos structures sociales africaines, ou est-ce qu'on va accepter de voir en la smart city cette sorte de grosse machine de transfert de la complexité des structures sociales dans de la complexification technologique. Il y a un enjeu civilisationnel à se positionner par rapport à cette question-là pour l'Afrique. Mais cet enjeu-là soldé en Afrique va impacter le monde entier, puisque à cette échéance-là, où la smart city sera athée, l'Afrique sera devenue, en quelque sorte, on aura les mégapoles qui seront les plus grandes de l'humanité. Et donc, ce qui va se décider en Afrique va forcément avoir un impact global.
Oui, il faudrait voir à pas complètement céder de manière aveugle à la technologie. Les fameuses smart cities, est-ce qu'elles vont pas ressembler à ces smartphones, ces téléphones qu'on dit intelligents, mais qui ont tellement d'applications qui servent à autre chose que de téléphoner, que ça mange toutes les batteries, et qu'à la fin, quand on veut téléphoner, le smartphone est trop fatigué. Oui, il est tellement fatigué qu'il ne peut même plus téléphoner. Il reste là, smart, mais aphone. Jeu de mots. Alors imaginez-vous, en cas de tempête géomagnétique sur une smart city où tout est connecté. Yeah, panique. Et puis enfin, aller bâtir de nouvelles villes ailleurs, c'est bien, mais c'est comme vouloir aller coloniser Mars. Ce dont on a besoin, nous, les citoyens des villes, c'est qu'on réinvente la ville où nous sommes déjà tous entassés, pour que les centaines de millions de gens qui y habitent vivent mieux, tout simplement. Enfin, c'est compliqué quand même. En tout cas, comme le suggérait Sénamé, le plus smart dans l'affaire, c'est bien celui qui fabrique et qui vend la technologie. Et en 2019, il faut bien le dire, c'était rarement un Africain. If you wanna take a call, you gon' see what we gon' do. Abidjan, 2069. La tempête magnétique a fait de gros dégâts. On recommence à avoir l'électricité, mais de manière intermittente. Comme avant, à l'époque des délestages. Vu la situation, j'ai reçu la visite d'un chercheur du Bureau des voyages intertemporels. Et là, il m'a dit que ses ordres étaient clairs. Avec la crise, il fallait renvoyer dans le cloud tous les gens qui appartenaient à un autre temps. Et de là, ils seraient forwardés vers leur époque d'origine. En gros, on m'a fait comprendre que j'allais rentrer en 2019. Justement, à une époque où l'Afrique semait les graines de sa propre technologie. Un peu avant 2019, j'avais rencontré au Burkina Faso un jeune homme, Gildas Guiella, qui misait sur l'avenir technologique de l'Afrique. Mais pour ça, il fallait que chacun se l'approprie cette technologie, et ça, du plus jeune au plus vieux. Alors avec des camarades, Gildas avait monté Ouagalab, un lieu où l'entraide et le partage des compétences sont de mise pour trouver des solutions aux problèmes de la communauté. Et c'est grâce à ce genre d'initiative qu'en 2069, 50 ans plus tard, l'Afrique n'a plus besoin de quelqu'un pour lui vendre des technologies et autres cités, toutes smart qu'elles soient. Lorsque je l'ai rencontré, Gildas avait 30 ans et des rêves qui épousaient la réalité pour mieux la transformer. Gildas, oui. Le Ouagalab, là, c'est quoi d'abord ?
Le Ouagalab, c'est un espace au fait de travail collaboratif. Et à la base, au fait, on a voulu s'inspirer au fait de ce qui était passé, qu'on appelait chez nous l'arbre à palabre. C'est cet arbre où les anciens se retrouvaient pour discuter ensemble, pour partager au fait tout ce qui se passait dans leur zone d'habitation, pour essayer de résoudre des problèmes qui touchent leur zone d'habitation. Donc nous nous sommes inspirés au fait de ce modèle-là. Bien vrai que les Fab Labs ont été inventés au fait depuis les États-Unis. Et nous nous sommes dit, il faut monter un Fab Lab qui répond à nos besoins. Donc c'est partie de l'arbre à palabre, qui est un modèle vraiment typique pour nous. Et on s'est dit, voilà, il faut mettre un espace à la disposition de la jeunesse pour qu'ils viennent partager leur savoir-faire, pour qu'ils viennent apprendre des autres et pour qu'ils viennent aussi, pour qu'ensemble, on essaie de relever les différents défis voilà, et qui touchent nos quotidiens, au fait. Voilà.
Et alors, justement, montre-moi un petit peu quelles sont les réalisations sur lesquelles vous avez planché avec ce lab, ce Ouagalab.
D'accord. Les réalisations, on va sortir, déjà commencer à voir, ça c'est une éolienne qu'on a montée en 2013. Donc on est parti du moyeu avant d'une moto où on a construit une éolienne qui fait du 1 kWh. Il n'est pas puissant, mais l'idée c'est de montrer qu'on peut arriver avec de la récupération à faire quelque chose d'utile. Et on va continuer ici, là c'est un séchoir que nous avons fait. Pour des bénéficiaires, c'est pour des femmes qui sont à Koudougou, qui est la troisième capitale. C'est des femmes qui font de la riziculture. Et justement, même avec ça, on est toujours en train de travailler, puisque avec ça, on a aussi des apiculteurs. Ils nous ont souligné comme problématique comment accéder à leurs ruches sans pour autant affecter les abeilles, sans pour autant se faire piquer. Et eux, ils utilisaient une technique qui était la torche qu'ils utilisaient pour allumer et que ça fait fâche à la ruche. Et les abeilles suivent les rayons lumineux pour se déplacer. En ce moment, eux, ils interviennent. Et nous, on les a proposé de faire une ruche améliorée. Ça veut dire une ruche avec deux bacs. Et le bac en dessous, on aura de la lumière et des capteurs, des détecteurs de lumière. Et dès qu'ils veulent intervenir, il y a la lumière qui va s'allumer et il y a le détecteur qui va ouvrir une porte. Les abeilles, ils vont descendre sur la deuxième case. Après, dès qu'ils finissent d'intervenir, il y a la deuxième lumière qui va s'allumer en haut. La porte va s'ouvrir et les abeilles ils vont remonter dans leur ruche au fait.
Dis donc, mais ça veut dire ça vraiment que pour chaque problème concret, on essaie de trouver une solution,
une solution
technologique quoi. Ouais. Et ça c'est... Toi tu es ingénieur à la base ?
Oui, je suis ingénieur en réseau informatique et télécom.
Ah, d'accord, donc tu n'étais pas du tout dans l'apiculture ?
Non, non.
Ni dans la riziculture ?
Non, je ne suis pas du tout dans l'apiculture ni dans la riziculture, mais c'est un des domaines qui me passionne beaucoup. Parce que je vois un peu l'avenir. Pour moi, aujourd'hui, si je vais parler de l'agriculture, je pourrais dire que nous avons des agriculteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pris ce domaine d'activité comme de l'entrepreneuriat. Ils le prennent jusqu'à présent comme un métier de survie. Et nous pensons qu'on peut aller au-delà tant qu'on arrive au fait à leur montrer qu'il y a des techniques innovantes qui vont leur permettre de pouvoir accroître leur méthode agricole.
Dis-moi, là, donc, on est toujours dans votre fief. C'est assez marrant parce que, bon, il y a une grande table avec plein de chaises autour, plein d'instruments, il y a des pistons, on dirait, enfin, des trucs compliqués, il y a des fers à souder.
Voilà, ici, au fait, c'est notre espace de prototypage et nous avons trois imprimantes 3D qui, voilà, des imprimantes classiques qui permettent d'imprimer, au fait, sur du plastique. Et pourquoi ces imprimantes? Parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, nous avons la technologie qui avance. Et si nous voulons, au fait, ne pas être en retard de la technologie et aussi permettre à nos jeunes frères de pouvoir prendre le train en marche parce qu'on ne doit plus réinventer la roue, c'est de leur permettre de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies-là et de leur permettre aussi de s'imprégner de cette nouvelle technologie afin qu'ils puissent les reconcevoir pour les réadapter à leurs propres besoins. Et voilà, donc nous avons trois imprimantes 3D.
Que vous avez fabriquées intégralement vous-même?
Non, moi j'ai reçu les deux imprimantes, mais la troisième imprimante, on a imprimé les pièces sur les deux autres imprimantes pour monter la troisième imprimante. Donc l'imprimante, comme c'est la RepRap, c'est une machine qui se reproduit. Donc aujourd'hui, il suffit d'avoir une seule imprimante et tu peux avoir 10 000 imprimantes après.
Je sais que vous avez même un drone là.
Ouais, c'est. Et là, on est en train de construire un.
C'est vous-même qui fabriquez un drone?
Ouais, celui-là, c'est notre prototype, ouais. À partir de lui, on espère faire plein de drones, surtout dans le domaine de l'agriculture qui nous intéresse beaucoup.
Pour faire quoi?
Au fait, il y a des drones parce qu'on a vu qu'il y a des caméras aujourd'hui où quand tu prends la vidéo ou l'image, ils te donnent en même temps l'humidité, la température. Et nous voulons faire monter nos drones et puis mettre ces types de caméras pour pouvoir survoler au fait des zones agricoles et en même temps avoir l'image de la zone agricole aussi bien que de la température et de l'humidité. Et le but aussi, c'est de mettre ces données à la disposition des agronomes qui vont sensibiliser des agriculteurs qui sont dans ces zones par rapport aux méthodes d'agriculture qui sont adaptées à ces types, voilà, de zones agricoles. Tu peux faire de l'irrigation à distance, tu peux suivre l'évolution de tes plantes à distance. Aujourd'hui, même avec ton simple smartphone, tu peux arriver à déclencher des moteurs qui vont arroser. Et moi, je pense qu'on devrait aller dans ce sens. Et c'est vraiment une obligation pour nous si on prend vraiment l'agriculture comme une des sources de revenus. Et au Burkina Faso, 80%, nous sommes des agriculteurs. Donc, et de surcroît, on n'atteint même pas l'autosuffisance alimentaire. Pendant que 80% sont des agriculteurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vraiment adapter cette nouvelle technologie-là, en tout cas, adapter notre méthode d'agriculture, utiliser cette nouvelle technologie. Ça ne peut qu'être bénéfique pour nous.
Tu dis la fraiseuse?
Oui, la fraiseuse à commande numérique, au fait. Elle, c'est l'inverse de l'imprimante 3D. Elle découpe, au fait. Donc, c'est des découpes de précision où tu peux faire un modèle sur un modèle 2D et après, c'est la fraiseuse qui découpe, au fait. Donc,
elle, je vais la brancher. Oula! Chose sérieuse commence.
Aujourd'hui, si on veut que au fait, les plus jeunes puissent s'accaparer de cet outil numérique, il faut vraiment que ça paraisse à leurs yeux comme un outil banal. Donc on s'est dit, mettre ces vieux ordinateurs dans des bidons, qui va susciter d'abord la curiosité des gamins qui vont se dire, mais écoutez, un bidon, on connaît bien un bidon, mais ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas ce que c'est. Ça va susciter vraiment la curiosité des gamins. Deuxièmement, leur permettre de connaître et de comprendre les différentes parties au fait de l'outil numérique. Et troisièmement, leur mettre dans la tête aussi qu'il n'y a rien d'extraordinaire, ils peuvent arriver à fabriquer leur propre ordinateur. Pour un gamin, quand il arrive à monter, assembler des pièces d'ordinateur dans un bidon, il vient de fabriquer son premier ordinateur. Et tant qu'il a ça dans sa tête, on est vraiment sûr que c'est les geeks de demain et c'est eux qui vont réinventer le numérique demain. Parce qu'ils n'ont plus peur d'aller vers le numérique. Ils se disent que s'ils sont arrivés à fabriquer leur propre machine, ils peuvent vraiment aller au-delà.
Comment tu les appelles, ces ordinateurs?
Jerry Can.
Ah, il y a Yes We Can.
Oui, il y a Yes We Can, il y a Jerry Can. En fait, là, on a un ici. Ah. Là, on a un ici qu'on a monté avec des jeunes gamins. On en a un autre qui est devant, là, le Jerry Can vert.
Vous êtes des révolutionnaires. Hein. Sankara parlait de oser inventer l'avenir. Il disait produire Burkinabé et consommer Burkinabé.
Oui, au fait, moi, par rapport à cette phrase, j'avoue que c'est... C'est une des directions que nous avons pris, au fait. Parce que nous nous sommes dit, au Burkina Faso, on a 70% de la population à moins de 30 ans. Et quand tu réfléchis, tu regardes qu'on n'a qu'une seule porte de sortie. C'est d'oser inventer l'avenir et c'est de s'auto-employer. Parce que pour moi, un jeune avec un ordinateur et une connexion Internet, c'est potentiellement une entreprise. Quel qu'en soit où est-ce que tu es, tu as une entreprise ambulante.
Oser inventer l'avenir. Est-ce que c'était pas là l'un des slogans de Thomas Sankara, un autre afro-futuriste et grand rêveur devant l'éternel?
Sans rêve, pas d'avenir. Et l'afro-futurisme, c'est notre capacité à réinventer notre futur. Que notre futur ne soit plus jamais uniquement celui imaginé par les autres. Celui qui n'est pas en capacité de se projeter dans le futur ne s'y trouvera pas.
Les germes de changement aujourd'hui en Afrique sont très visibles. Et ça, c'était également un message porteur d'avenir, parce qu'on a cette image omniprésente de jeunes Africains qui ont l'impression que leur avenir est forcément hors du continent. Mais c'est bon d'avoir de l'autre côté cette image également d'une jeunesse qui est là, qui a tous les problèmes du monde, mais qui s'est dit, eh bien, ces problèmes, résolvons-les, et pour les résoudre, regardons les technologies et adaptons-les à ces problèmes qui sont les nôtres.
L'afrofuturisme, avant tout, pour moi, est politique. La politique, ça n'est rien d'autre que le vivre ensemble. La politique, c'est pas un programme politique et étatique. C'est d'abord comment est-ce qu'on veut vivre ensemble et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Et de ce point de vue-là, l'afrofuturisme assume et réengage ça.
Pour penser le futur, on est obligé de repartir aux traditions, on est obligé d'aller rechercher des outils traditionnels pour revenir les colorer avec des couleurs et une peinture moderne, quoi.
Mélissa, si je te dis afrofuturisme, qu'est-ce que tu me dis ?
In the future, we exist.
We exist. We exist. We exist. We exist.
Chers amis, ça va être la fin de ma transmission. La dernière, j'en ai bien peur. Je m'apprête à vous retrouver en 2019. J'ai caché mon oreillette Greentooth dans ma poche et j'espère pouvoir l'emporter avec moi, qui sait, parce qu'elle me permettra peut-être de pouvoir déposer le brevet avant tout le monde. En tout cas, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'espère que d'autres, peut-être vous qui m'écoutez, vous aurez l'occasion de voyager dans le futur et de raconter. Et puis bon, si c'est pas le cas, alors il y a de quoi, dans le présent, raconter les projets de tous ceux qui rêvent et ensemencent le futur de l'Afrique. Je suis sûr qu'une radio comme RFI sera intéressée par le sujet. Car comme disait Binda, sans rêve, pas d'avenir.
Pas d'avenir.
Avant de finir, s'ils sont à l'écoute, j'envoie un grand merci à Sinatou Saka et Simon De Creuse qui m'ont aidé à réaliser ce rêve afro-futuriste. Portez-vous bien et rêvez fort, moi, je coupe.
The you, the I, do we ever stop to question why we do what we do? For there are so many whys on this quest for truth. But you see, the truth never lies. And they say that family cannot hide. And the honest truth is that I see myself within you. So I ask why the divides, whether it's between shade or hue, island pride, class, religion, where one resides. For these postcodes, we're ready to die. Die over bonds and ties that are not as strong as the bond that connects me to you. I can relate to your struggle. I overstand the hustle, but it's the music that moves. Your 16 bars are more powerful than the pull-up. We document the times and enlighten the confused. Unified through rhyme, the future is ours as long as it's a future that we produce. Remember, we are still brothers, whatever path we choose. We're still brothers, so respect you. It's what we do.